Notre-Dame de la Mort, issu du recueil Nouveaux mystères et aventures de Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1. Mon existence a été accidentée et la destinée y a fait entrer maintes aventures peu ordinaires. Mais parmi ces incidents, il en est une d'une étrangeté telle que, quand je passe en revue ma vie, tous les autres deviennent insignifiants. Celui-là surgit au-dessus des brouillards d'autrefois avec un aspect sonore et fantastique en jetant son ombre sur les années dépourvues d'événements qui le précédèrent et le suivirent. Cette nuit-là, je ne l'ai pas souvent racontée. Bien petit est le nombre de ceux qui l'ont entendu de ma propre bouche, et c'étaient des gens qui me connaissaient bien. De temps à autre, ils m'ont demandé de faire ce récit devant une réunion d'amis, mais je m'y suis constamment refusée, car je n'ambitionne pas le moins du monde la réputation d'un Munchausen amateur. Pourtant, j'ai déféré jusqu'à un certain point à leur désir, en mettant par écrit cet exposé des faits qui se rattache à ma visite à Dunkelswaite. Voici la première lettre que m'écrivit John Thurston. Elle est datée d'avril 1862. Je la prends dans mon bureau et la copie textuellement. « Mon cher Lawrence, si vous saviez à quel point je suis dans la solitude et l'ennui, je suis certain que vous auriez pitié de moi et que vous viendriez partager mon isolement. Souvent, vous avez vaguement promis de visiter le Dunkelswaite et de venir jeter un coup d'œil sur les landes du Yorkshire. Quel moment serait plus favorable qu'aujourd'hui pour votre voyage? Certes, je sais que vous êtes accablé de besogne, mais comme en ce moment vous n'aviez pas de cours à suivre, vous seriez tout aussi à votre aise pour étudier que vous l'êtes dans Baker Street. Emballez donc vos livres comme un bon garçon que vous êtes et arrivez. Nous avons une chambrette bien confortable pourvue d'un bureau et d'un fauteuil qui sont juste ce qu'il faut pour travailler. Faites-moi savoir quand nous pourrons vous attendre. En vous disant que je suis seul, je n'entends point dire par là qu'il n'y ait personne chez moi. Au contraire, nous formons une maisonnée assez nombreuse. Tout d'abord, naturellement, comptons mon pauvre oncle Jérémie, bavard et maniaque, qui va et vient en chaussons de lisière et compose selon son habitude de mauvais vers à n'en plus finir. Je crois vous avoir fait connaître ce dernier trait de son caractère la dernière fois que nous nous sommes vus. Cela en est arrivé à un tel degré qu'il a un secrétaire dont la tâche se réduit à copier et conserver ses épanchements. Cet individu, que se nomme Copperthorne, est devenu aussi indispensable au vieux que sa marotte ou son dictionnaire universel des rimes. Je n'irai point jusqu'à dire que je m'inquiète de lui, mais j'ai toujours partagé le préjugé de César contre les gens maigres, et pourtant, si nous en croyons les médailles, le petit Jules faisait évidemment partie de cette catégorie. En outre, nous avons les deux enfants de notre oncle Samuel qui ont été adoptés par Jérémie. Il y en a eu trois, mais l'un d'eux a suivi la voie de toute chair, et une gouvernante, une brune à l'air distinguée, qui a du sang hindou dans les veines. Outre ces personnes, il y a trois servantes et le vieux groom. Vous voyez là que nous formons un petit univers dans notre coin écarté. Ce qui n'empêche, mon cher Hugues, que je meurs d'envie de voir une figure sympathique et d'avoir un compagnon agréable. Comme je donne à fond dans la chimie, je ne vous dérangerai pas dans vos études. Répondez-moi par le retour du courrier à votre solitaire ami, John H. Thurston. À l'époque où je reçus cette lettre, j'habitais Londres, et je travaillais ferme en vue de l'examen final qui devait me donner le droit d'exercer la médecine. Thurston et moi, nous avions été amis intimes à Cambridge avant que j'eusse commencé l'étude de la médecine et j'avais grand désir de le revoir. D'autre part, je craignais un peu que, malgré ses assertions, mes études n'eussent à souffrir de ce déplacement. Je me représentais le vieillard retombé en enfance, le secrétaire maigre, la gouvernante distinguée, les deux enfants, probablement des enfants gâtés et tapageurs, et j'arrivais à conclure que quand tout cela et moi nous serions bloqués ensemble dans une maison à la campagne, il resterait bien peu de temps pour étudier tranquillement. Après 2 jours de réflexion, j'avais presque résolu de décliner l'invitation lorsque je reçus du Yorkshire une autre lettre encore plus pressante que la première. « Nous attendons des nouvelles de vous à chaque courrier, » disait mon ami, « et chaque fois qu'on frappe, je m'attends à recevoir un télégramme qui m'indique votre train. Votre chambre est toute prête et j'espère que vous la trouverez confortable. L'oncle Jérémie me prie de vous dire combien il sera heureux de vous voir. Il aurait écrit, mais il est absorbé par la composition d'un grand poème épique de 5000 vers ou environ. Il passe toute la journée à courir d'une chambre à l'autre, ayant toujours sur les talons Copperthorne qui, pareil au monstre de Frankenstein, le suit à pas compter, le calepin et le crayon à la main, notant les savantes paroles qui tombent de ses lèvres. À propos, je crois vous avoir parlé de la gouvernante brune, si pleine de chic. Je pourrais me servir d'elle comme d'un appât pour vous attirer, si vous avez gardé votre goût pour les études d'ethnologie. Elle est fille d'un chef hindou qui avait épousé une anglaise. Il a été tué pendant l'insurrection en combattant contre nous. Ses domaines ayant été confisqués par le gouvernement, sa fille, alors âgée de 15 ans, s'est trouvée presque sans ressources. Un charitable négociant allemand de Calcutta l'adopta, paraît-il, et l'amena en Europe avec sa propre fille. Celle-ci mourut, et alors Miss Warinder, nous l'appelons ainsi, du nom de sa mère, répondit à une annonce insérée par mon oncle, et c'est ainsi que nous l'avons connue. « Maintenant, mon vieux, n'attendez pas qu'on vous donne l'ordre de venir. Venez tout de suite. » Il y avait dans la seconde lettre d'autres passages qui m'interdisent de la reproduire intégralement. Il était impossible de tenir bon plus longtemps devant l'insistance de mon vieil ami. Aussi, tout en pestant intérieurement, je me hâtai d'emballer mes livres, je télégraphiai le soir même, et la première chose que je fis le lendemain matin, ce fut de partir pour le Yorkshire. Je me rappelle fort bien que ce fut une journée assommante et que le voyage me parut interminable, recroquevillé comme je l'étais dans le coin d'un wagon à courant d'air, où je m'occupais à tourner et retourner mentalement maintes questions de chirurgie et de médecine. On m'avait prévenu que la petite gare d'Ingleton, à une 15aine de miles de Tarnforth, était la plus rapprochée de ma destination. J'y débarquai à l'instant même où John Thurston arrivait au grand trot d'un haut dog-cart pour la route de la campagne. Il agita triomphalement son fouet en m'apercevant, poussa brusquement son cheval, sauta à bas de voiture et de là sur le quai. « Mon cher Hugh, s'écria-t-il, je suis ravi de vous voir, comme vous avez été bon de venir. » Il me donna une poignée de main que je sentis jusqu'à l'épaule. « Je crains bien que vous ne me trouviez un compagnon désagréable maintenant que me voilà, » répondis-je. « Je suis plongé jusque par-dessus les yeux dans ma besogne. »« C'est naturel, tout naturel, » dit-il avec sa bonhomie ordinaire. « J'en ai tenu compte, mais nous aurons quand même le temps de tirer un ou deux lapins. Nous avons une assez longue trotte à faire et vous devez être complètement gelé. Aussi, nous allons repartir tout de suite pour la maison. » Et l'on se mit à rouler sur la route poussiéreuse. « Je crois que votre chambre vous plaira, » remarquait mon ami. « Vous vous trouverez bientôt comme chez vous. Vous savez, il est fort rare que je séjourne à Dunkerthwaite, et je commence à peine à m'installer et à organiser mon laboratoire. Voici une 15aine que j'y suis. C'est un secret connu de tout le monde que je tiens une place prédominante dans le testament du vieil oncle Jérémie. Aussi mon père a-t-il cru que c'était un devoir élémentaire pour moi de venir et de me montrer poli. » Étant donné la situation, je ne puis guère me dispenser de me faire valoir un peu de temps en temps. « Oh, certes, » dis-je. « En outre, c'est un excellent vieux bonhomme. Cela vous divertira de voir notre ménage. Une princesse comme gouvernante, cela sonne bien, n'est-ce pas ? Je m'imagine que notre imperturbable secrétaire s'est hasardé quelque peu de ce côté-là. Relevez le collet de votre pardessus, car il fait un vent glacial. » La route franchit une série de collines faibles, pelées, dépourvues de toute végétation, à l'exception d'un petit nombre de bouquets de ronces, et d'un mince tapis d'une herbe coriace et fibreuse, où un troupeau épais de moutons décharnés, à l'air affamé, cherchaient leur nourriture. Nous descendions et montions tour à tour dans un creux, tantôt au sommet d'une hauteur d'où nous pouvions voir les sinuosités de la route comme un mince filet blanc passant d'une colline à une autre plus éloignée. Ça et là, la monotonie du paysage était diversifiée par des escarpements dentelés formés par de rudes saillies du granit gris. On y dit que le sol avait subi une blessure effrayante par où les os fracturés avaient percé leur enveloppe. Au loin se dressait une chaîne de montagnes que dominait un pic isolé, surgissant parmi elles et se drapant coquettement d'une guirlande de nuages où se réfléchissait la nuance rouge du couchant. « C'est Ingleborough !» dit mon compagnon en me désignant la montagne avec son fouet. « Et ici, ce sont les Landes du Yorkshire. Nulle part en Angleterre, vous ne trouverez de région plus sauvage, plus désolée. Elle produit une bonne race d'hommes. Les milices sans expérience qui bâtirent la chevalerie écossaise à la journée de l'étendard venaient de cette patrie du pays. Maintenant, sautez à bas, vieux camarade, et ouvrez la porte. Nous étions arrivés à un endroit où un long mur couvert de mousse s'étendait parallèlement à la route. Il était interrompu par une porte cochère en fer, à moitié disloquée, flanquée de deux piliers, au haut desquels des sculptures, taillées dans la pierre, paraissaient représenter quelque animal héraldique, bien que le vent et la pluie les eussent réduites à l'état de blocs informes. Un cottage en ruine, qui avait peut-être, il y a longtemps, servi de loge, se dressait à l'un des côtés. J'ouvris la porte d'une poussée et nous parcourûmes une avenue longue et sinueuse, encombrée de hautes herbes au sol inégal, mais bordée de chênes magnifiques, dont les branches, en s'entremêlant au-dessus de nous, formaient une voûte si épaisse que le crépuscule du soir fit place soudain à une obscurité complète. Je crains que notre avenue ne vous impressionne pas beaucoup, dit Thurston en riant. C'est une des idées du vieux bonhomme, de laisser la nature agir en tout à sa guise. Enfin, nous voici à Dunkelthwaite. Comme il parlait, nous contournâmes un détour de l'avenue marqué par un chêne patriarcal qui dominait de beaucoup tous les autres, et nous nous trouvâmes devant une grande maison carrée, blanchie à la chaux et précédée d'une pelouse. Tout le bas de l'édifice était dans l'ombre, mais en haut, une rangée de fenêtres éclairées d'un rouge de sang scintillait au soleil couchant. Au bruit des roues, un vieux serviteur en livrée vint, tout courant, prendre la bride du cheval dès que nous avançâmes. « Vous pouvez le rentrer à l'écurie, Ellie, » dit mon ami, dès que nous fûmes sautés à bas. « Hugh, permettez-moi de vous présenter à mon oncle Jérémy. »« Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? » dit une voix chevrotante et fêlée. Et levant les yeux, j'aperçus un petit bonhomme à la figure rouge qui nous attendait debout sous le porche. Il avait un morceau d'étoffe de coton roulé autour de la tête, comme dans les portraits de Pope et d'autres personnages célèbres du XVIIIe siècle. Il se distinguait en outre par une paire d'imposantes pantoufles. Cela faisait un contraste si étrange avec ses jambes grêles en forme de fuseau qu'il avait l'air d'être chaussé de ski, et la ressemblance était d'autant plus frappante qu'il était obligé pour marcher de traîner les pieds sur le sol afin que ses appendices encombrants ne l'abandonnassent pas en route. « Vous devez être là, monsieur, et je l'ai aussi, monsieur, » dit-il d'un ton étrange, saccadé, en me serrant la main. « Nous devons être hospitaliers pour vous. Nous le devons certainement. L'hospitalité est une des vertus de l'ancien monde que nous avons conservée. Voyons ces vers. Quels sont-ils ? Le bras de l'homme du Yorkshire est leste et fort, mais oh, comme il est chaud, le cœur de l'homme du Yorkshire. » Voilà qui est clair, précis, monsieur. C'est pris dans un de mes poèmes. Quel est ce poème, Copperthorne ? La poursuite de Borrowdale, dit une voix derrière lui, en même temps qu'un homme de haute taille, à la longue figure, venait se placer dans le cercle de lumière que projectait la lampe suspendue en haut du porche. John nous présenta, et je me souviens que le contact de sa main me parut visqueux et désagréable. Cette cérémonie accomplie, mon ami me conduisit à ma chambre, en me faisant traverser bien des passages et des corridors reliés entre eux à la façon de l'ancien temps par des marches inégales. Chemin faisant, je remarquai l'épaisseur des murs, l'étrangeté et la variété des pentes du toit qui faisaient supposer l'existence d'espaces mystérieux entre les combles. La chambre qui m'était destinée était, ainsi que me l'avait dit John, un charmant petit sanctuaire où pétillait un bon feu, et où se trouvait une étagère bien garnie de livres. Et en mettant mes pantoufles, je me dis que j'aurais eu tort, sans doute, de refuser cette invitation à venir dans le Yorkshire.